Vi chiederei di chi, ecco, di chi sono Spazio Santo, o chi la preghiera. Alléluia. Et là, nous savons que nous sommes bien plus entendus, écoutés. Et celui qui règne dans les cieux, il n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne, mais dans un ce cœur de grâce, parce que tout est grâce, c'est son cœur, du grâce, il dépasse tout ce que je peux concevoir, même si Seigneur, il m'a tout accompli, il m'a tout donné, il a tout acquis pour moi. Amen. Merci Seigneur. Pour notre partie étude biblique, je vous invite à ouvrir avec moi l'épître aux Colossiens. Vous savez que depuis quelques mardis, nous sommes sur les épîtres de Paul, non pas dans toutes les épîtres de Paul, mais les épîtres de Paul aux églises. On a déjà étudié l'épître aux Romains, on a étudié les Galates et les Philippiens. Et bien sûr, on n'étudie pas, on pourrait, mais on n'étudie pas tout de façon linéaire. Il y a beaucoup d'exhortations éthiques, pratiques, il y a différents sujets. Puisque nous sommes dans le contexte de l'Église, nous nous attachons, j'essaye au maximum, nous nous attachons à considérer les grandes lignes, les grands principes spirituels, les grandes lignes qui se détachent des épîtres, qui sont en réalité les fondamentaux que l'Église ne doit jamais perdre de vue, parce que c'est la vie, c'est le salut d'abord, mais ensuite la vie de l'Église qui en dépend. Donc ce sont des grands sujets spirituels que, pardonnez-moi, les chrétiens devraient connaître sur le bout des doigts et devraient être au clair sur toutes ces choses dans les premières années de leur marche avec le Seigneur, pour ne pas dire dans les premiers mois, parce que tous ces points sont réellement extrêmement importants. Et quand ces points, malheureusement, sont mal enracinés dans les cœurs ou dans les vies, eh bien, il peut y avoir une sorte, c'est là que commencent les dérives et la faiblesse aussi des uns et des autres par rapport à des points dans lesquels ils sont mal affermis. C'est là que l'ennemi nous a. Essaye de prendre l'avantage. Donc ce soir, on va regarder dans l'épître aux Colossiens, vous pouvez prendre avec moi le chapitre premier. Si je devais donner un titre à cette épître, les autres épîtres, ce n'est pas évident parce qu'il y a tellement de grands points, mais là, il y a vraiment quelque chose de très fort qui ressort, c'est l'Église christocentrée. Même si c'est vrai que toutes les épîtres, on le dit, sont christocentriques parce qu'elles avaient pour vocation de ramener les dérives naissantes après la constitution des églises, elles avaient pour but de ramener ces épîtres, les chrétiens, les disciples, à la pensée de Christ. Elles recentraient tout sur Christ. Elles le sont toutes christocentriques, évidemment, même toute la Bible est christocentrique, hein. Même l'Ancien Testament est christocentrique. Mais là, on a vraiment un Everest, c'est vraiment l'Église centrée sur Christ, et on va voir ensemble comment. Quoi et comment l'apôtre Paul insiste à ce point. On va déjà lire. Ce sera les lectures seront un petit peu plus longues qu'à l'habitude. On prend déjà au chapitre premier et on va lire au verset 12, les versets 12 à 19. Colossiens chapitre 1er, verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, le rachat de nos âmes, l'émission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Ah, là, il y a une phrase qui a posé, qui a fait couler beaucoup de salive et qui a emmené beaucoup de gens dans la dérive. Le premier-né de toute la création. Ça, il faut absolument qu'on l'explique. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Et il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. On va un petit peu plus loin au chapitre, toujours au chapitre premier, pardon. On descend un peu, verset 26. Paul insiste ici sur le fait qu'il a besoin d'annoncer, il veut annoncer pleinement la parole de Dieu, annoncer Verset 26, le mystère. Vous allez voir plusieurs fois dans les lectures, il va être question de mystère. Et vous allez comprendre pourquoi c'est dans cette épître et pas dans d'autres. Il est beaucoup plus ici. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, c'est-à-dire aux disciples, à nous, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. On va maintenant au chapitre 2, on lit les versets 1 à 10, s'il vous plaît. Après, je vous encourage, comme d'autres épîtres, à prendre le temps de bien les relire, surtout que celle-là n'est pas très longue, hein, 4 chapitres, 95 versets. On peut même prendre le temps de la lire et de la relire plusieurs fois pour que ça pénètre bien le cœur. C'est très important de savoir relire et relire et relire encore pour que tout s'imprègne bien en nous. Chapitre 2, verset 1er. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère, verset 3 encore, et c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Il nous dit cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, on va en parler, et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, on va voir à quoi Paul fait allusion quand il parle de ça, et non sur Christ. Car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez pleinement en lui Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Un petit peu plus loin, on descend, toujours le chapitre 2, et cette fois, on prend les versets 16 à 23, et on aura largement de quoi alimenter la méditation. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Aucun homme, sous une apparence d'humilité ou par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un orgueil vain par ses pensées charnelles. S'attacher au chef, c'est Jésus dans la pensée, dont tout le corps, c'est l'Église dans la pensée, assiste et solidement assemblé par des jointures et des liens, l'accroissement que Dieu donne. Parce que vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde. Pourquoi ? Comme si vous étiez du monde, on vous impose encore des préceptes du genre « ne prends pas, ne coûte pas, ne touche pas ». Tous ces préceptes, parce qu'il n'y a pas que pour vous qui fait chaud, hein. Tous ces préceptes deviennent pernicieux par l'abus et ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines humaines. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, le mépris du corps, très important ici, on en parle aussi, le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent uniquement à la satisfaction de la nature charnelle. Amen. Cette église de Colosse, cette épître lui est adressée par Paul parce qu'elle est confrontée très rapidement. C'est probablement Epaphras qui a fondé cette église. Et très rapidement, elle est confrontée à deux sortes de dérives. La première qui est assez connue maintenant, parce qu'on en a parlé avec les Romains et les Galates. Et c'était très courant, c'est-à-dire la première, c'était ces faux docteurs judaïsants qui sillonnaient les églises et qui prenaient un retour aux pratiques de l'Ancien Testament, les fêtes, les sabbats, la circoncision, rituel alimentaire, etc., etc. Mais ce à quoi Paul répond, sans prononcer le mot, il répond à une philosophie du 1er siècle qui s'appelle le gnosticisme. Le gnosticisme, c'est quelque chose qui date du 1er siècle, mais attention, qui n'est absolument pas passé aujourd'hui. Ça existe encore. Le gnosticisme est une philosophie, évidemment, qui là venait du monde païen. Il parle des rudiments du monde. On vous impose des préceptes des rudiments du monde. Il est question de ce gnosticisme, philosophie issue du monde païen. Il y avait les faux docteurs judaïsants qui voulaient ramener tout le monde dans l'ombre de l'Ancien Testament. Et puis, il y avait des gens qui venaient, c'était aussi des faux docteurs, mais qui, eux, ne venaient pas du judaïsme, et qui venaient simplement de ce monde païen avec leur philosophie. Le gnosticisme dit quelque chose de très simple. Il y a un Dieu, c'est vrai, il y a un seul et unique Dieu, et Dieu est bon, amen, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que le corps, dans la pensée du gnosticisme, le corps est nécessairement mauvais. Donc, un Dieu qui est bon ne peut pas habiter dans quelque chose qui est mauvais. Et c'est comme ça que ces gnostiques, ces ascètes, parce que dans l'ascétisme, le mépris du corps, et le gnosticisme, désolé, j'ai pris des mots un peu compliqués ce soir, vous vérifierez sur Internet, ça fait très bon ménage, ce gnosticisme, en réalité, amener une négation de la divinité de Jésus. On niait que Jésus était Dieu, Jésus n'avait pas pu s'incarner. Oui, on croyait qu'il y avait un Jésus, mais qu'il était une créature, qu'il était créé de Dieu, et pas qu'il était Dieu éternel venu dans la chair, puisque en réalité, Dieu étant bon, votre Jésus ne peut pas être bon, parce qu'il ne peut pas être dans un corps, parce que le corps est nécessairement mauvais. Et encore aujourd'hui, voyez l'épître aux Hébreux, aux Romains, sont des épîtres, si vous les maîtrisez, qui sont, toute la Bible est exceptionnelle, mais des épîtres qui sont exceptionnelles si vous parlez à des juifs. Mais le jour où vous avez à parler à des témoins de Jéhovah, une grande partie de leur doctrine repose sur des textes du genre « Il est le premier-né de toute la création ». Et c'est sur ce genre de textes qui ont été très mal compris qu'ils vont prôner que, oui, il y a un Jésus, ils vont vous parler de Jésus, ils croient en Jésus. Il y a même marqué « Église des saints de Jésus-Christ des derniers jours » sur leur fronton, dans les salles du royaume, etc. Mais en réalité, Jésus, pour eux, n'est pas Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a aucun moyen de s'entendre. Jésus n'est pas Dieu. Jésus, pour eux, et pour tant d'autres, est une simple création, est une simple créature de Dieu. Le problème, c'est qu'en ayant rabaissé Jésus au rang de simple créature, déjà évidemment, on perd tout, parce que si Jésus n'est pas Dieu, si c'est une créature exceptionnelle de Dieu, mais une créature, on a déjà un énorme problème, rien que pour le salut. Mais puisqu'on l'a rabaissé à une simple créature, il devient donc un simple intermédiaire entre les hommes et Dieu, comme tant d'autres. Donc Jésus, pas de souci. Marie, pas de souci. Le pape, pas de souci. Marie, pas de souci. Mahomet, pas de souci. Bouddha, pas de souci. Confucius, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de souci avec personne. Et on arrive même, puisqu'on l'a ramené à un simple, au rang de simple intermédiaire entre Dieu et les hommes, on arrive même à un culte des anges, chapitre 2, verset 18, que personne ne vous ravisse le prix de la course pour un culte des anges. Pourquoi Paul dit ça? Tout ce qu'il dit là est ciblé. Il est en train de répondre à des courants de pensée philosophique qui, selon les siècles, ont été plus ou moins présents, mais qui ont toujours existé et qui étaient flagrants déjà à son époque. C'est pour ça que Paul insiste sur la supériorité de Christ en tout, partout. Il est au-dessus des trônes, il est au-dessus des dignités, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. De plus, il y avait quelque chose, voilà, ça je vous l'ai dit, il y avait quelque chose dans le gnosticisme qui est vraiment pernicieux, l'apôtre Paul l'a dit bien, ça a une apparence d'humilité, de sagesse, parce que ça vous enseigne le mépris du corps. Pourquoi l'apôtre Paul dit ces choses? Justement, parce que dans le gnosticisme, cette philosophie du 1er siècle, prenez que la connaissance des choses divines n'était possible, n'était accessible qu'à quelques initiés, qui, à force de négligence du corps, négligence sur négligence, pour ne pas dire même des maltraitances du corps, arriveraient à percer des mystères divins, arriveraient à un certain degré de spiritualité. Et frères et sœurs, ça existe encore aujourd'hui. la maltraitance du corps, la négligence, le mépris du corps, en espérant arriver à un degré de spiritualité. Et en réalité, ici, cette dérive, ça s'appelle l'ascétisme, c'est-à-dire s'imposer toutes sortes de privations et puis ensuite de maltraitance pour percer les mystères divins, essayer de progresser dans sa quête de spiritualité et puis atteindre une forme de perfection. Ce qui est une profonde dérive diabolique de ce que Paul enseigne notamment aux Galates et dans beaucoup d'épîtres, qui est la marche par l'esprit, dans lequel effectivement je dois avoir un équilibre. Et vous savez, frères et sœurs, je suis désolé, mais même dans les milieux évangéliques, les chrétiens ne sont pas forcément équilibrés avec la compréhension de leur corps et avec la gestion de leur corps. Déjà, le nombre de chrétiens qui me disent « Ah, je suis trop petit, ah, je suis trop chaud, ah, je suis trop grand, ah, je suis trop grosse, ah, je suis trop comme ci, ah, je suis trop comme ça, oh, j'aime pas mon corps. » Oh, par la grâce de Dieu, dit Paul, je suis ce que je suis. David dit « Je suis une créature merveilleuse. » Jésus le Fils, Dieu le Fils incarné, entrant dans le monde, Hébreux 10 dit « Tu m'as donné un corps. » Et j'ai dit « Me voici, ô Dieu, avec ce corps pour accomplir ta volonté. » Donc il y a vraiment tout un équilibre à avoir, au sens où, évidemment, le corps, dans la marche par l'esprit, le corps et l'âme, on l'a vu, ne doivent pas prendre la direction des opérations, ne doivent pas contrôler. Je ne vis pas pour mon corps, je ne vis pas par mon corps, je n'idolâtre pas mon corps, j'en ai rien à cirer, pardon, d'être le plus beau, ma sœur, t'es la plus belle, t'es pas la plus belle, excuse-moi, tout le monde s'en moque. Mais en réalité, il y a des dérives inverses où je ne dois pas arriver à avoir un mépris de moi-même. Je pèse mes mots quand je dis qu'il y a des chrétiens, il y a des gens, des jeunes, il y a des chrétiens, ils se regardent, ils détestent ce qu'ils voient, parce qu'ils sont formatés dans un schéma de société. Et puis comme on déteste ce qu'on voit, on se méprise, on finit par se négliger et on finit par se faire du mal. Frères et sœurs, je sais pourquoi je dis ça. J'ai vu, j'ai connu des chrétiens comme ça. Il y en a, excusez-moi, et c'était les starlettes de l'église, c'était les top modèles, machin, etc. Écoute, excuse-moi, tu vas te calmer, parce que dans quelques années, tu seras bien défraîchi et tu retourneras en poussière comme tout le monde. Alors avec ton corps calmos, marche par l'esprit, ton corps et ton âme, tu ne vis pas pour eux, mais ils sont soumis à l'esprit. Mais tu ne vis pas dans un dérèglement inverse, parce que le corps, c'est un cadeau de Dieu. Mon corps est un cadeau de Dieu. Dieu m'a donné, Jésus le dit, tu m'as donné un corps. Ce corps m'a été donné, il m'a été offert par le Seigneur. S'il ne te plaît pas, c'est ton problème, mais tu remets en question la souveraineté de Dieu sur ce que tu es et qui tu es, et tu te laisses modeler par des dictats de la société vaine et stérile, au lieu simplement de dire « Seigneur, bah, par ta grâce, je suis ce que je suis, et excuse-moi ». Pour tous ceux qui se disent « J'insiste, hein, je ne suis pas assez comme si, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez belle bah, ». Heureusement que tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez belle. Parce que sinon, tu serais dans certains milieux, tu n'as aucune idée de ce qui t'arriverait. Et tu n'as aucune idée de ce que tu mettrais les pieds, des portes ténébreuses et destructrices qui s'ouvriraient dans ce monde si tu étais vraiment un top. Donc, non, je ne suis pas un top, mais excusez-moi, je vais être bien, je vais prendre sur moi, ne pas me négliger, ma femme prend soin d'elle, ce n'est pas Claudia Schiffer, mais elle prend soin d'elle, je prends soin de moi, elle me plaît, je lui plais, nous avons un corps. Et j'ai appris par expérience dans le ministère que le corps est un cadeau de Dieu. Claudia Schiffer, là, je t'ai appris là. Je l'ai perdu avec eux. Ah non, François, je disais que c'est ça. Je ne suis pas dans une réunion de jeunes, là. Et réellement être dans un équilibre. Vous savez, frères et sœurs, quand j'étais jeune pasteur, je stocke souvent des milliers et des milliers de kilomètres pour le milieu, mais je manquais de sagesse avec mon corps. Parce que je faisais attention à rien, je ne m'occupais pas de mon corps. Et puis c'était toujours avec ce sentiment, vous savez, un peu de culpabilité et puis d'ego, parce qu'il ne faut pas croire, les pasteurs, ils ont de l'ego aussi, ils aiment bien que ça marche et machin, et puis etc. 100%. Je connais des pasteurs, excusez-moi, ils ne se permettraient jamais de faire la sieste 30 minutes un après-midi. Ah, ben non, si jamais un chrétien, je vous le dis tout net, hein. 6 jours sur 7, minimum, des fois 7 sur 7, en tout cas, sur 7. Si je n'ai pas 30 minutes de sieste pour me reconnecter, ça ne va pas. J'ai besoin, j'ai un corps, et je ne faisais pas attention à mon corps. Donc, je mangeais n'importe quoi. Je ne suis pas idolâtre de mon corps. Je mangeais n'importe quoi. Je faisais n'importe quoi. Les textes bibliques mal interprétés. Oui, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Mais Paul n'a pas condamné l'exercice corporel. Il a juste dit que la piété est utile pour l'éternité et que l'exercice corporel était utile pour le moment présent, donc forcément peu de choses. Mais il ne l'a pas interdit. Et ben moi, je prenais pas soin de mon corps, je faisais 50 000 km dans une voiture pourrie, je m'occupais ni de mon matelas, ni de ceci, ni de cela. Et puis un jour, mon corps, il a dit stop. Je me suis retrouvé totalement bloqué. J'avais 40 ans et j'étais là. Et je comprends les frères et sœurs qui ont 90 ans. Et j'étais là et je disais, comment je vais faire? Ah là, ça m'a brisé. Ça m'a brisé. Comment je vais faire?
Oui.
Pour monter dans la voiture sans hurler de douleur. Et comment je vais faire pour sortir de la voiture sans avoir une douleur? Et que là, c'était plus 30 minutes de repos, c'était allongé 3-4 heures par jour, totalement cassé, par manque de sagesse. Parce que, sous prétexte que je voulais être spirituel, j'avais méprisé mon corps. Je vais vous dire un truc bête, il m'a fallu 3-4 ans, 4-5 ans de ministère, heureusement, j'ai compris vite, pour comprendre que mon corps était évidemment pas un idole, mais que mon corps était un cadeau de Dieu. Et que les chrétiens, les frères et sœurs, quand je les reçois en entretien, quand je vais vers chez eux, quand je vais en pastoral, quand je vais en convention, quand je vais visiter des églises, quand je fais l'œuvre de Dieu, excusez-moi, je n'y vais pas en téléportation, j'y vais avec un corps. Et ce corps, j'ai besoin qu'il soit en bonne santé. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à mon exercice physique. Arriver dans une église, alors on va dire là, il y a des chrétiens qui vont faire du sport dans les salles de sport. Il y a des chrétiens qui ont des coachs sportifs. Ah, pas des rétros, c'est péché. Non, mais vous plaisantez? Oui, je fais de l'exercice, j'ai besoin de prendre soin de mon dos, j'ai besoin de faire attention, j'ai deux attrapes par mon corps. Mais mon corps est au service de Dieu. Et mon corps, et je sers Dieu en esprit, amen, mais je le sers aussi avec mon corps. Et j'ai besoin d'être vigilant. Et c'est là que je vous dis, avec tout ce que j'ai vu gagner dans les églises, nous ne sommes peut-être pas des ascètes ou des gnostiques. C'est-à-dire qu'on va vraiment se maltraiter. Mais on est souvent beaucoup trop déséquilibré sur la question du corps. Tu m'as donné un corps, Seigneur. Ce corps, dans la consécration totale, je te l'ai offert pour te servir et j'en prends soin. Pas par intérêt ou par amour déplacé ou par idolâtrie, mais j'en prends soin parce que je veux bien te servir. Et mon corps aussi fait partie.
Amen.
Si je vous choque, cet ascétisme rigide, la négligence, voire même la maltraitance du corps, en espérant qu'on soit plus spirituel. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle de ce mystère, parce que les ascètes cherchaient, en se maltraitant, à percer des mystères cachés de tout temps, dans les âges, maintenant révélés à ses saints. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est ça le mystère caché. Soyez enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. C'est Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse, de la science, de l'intelligence, tout ce que vous recherchez est en Christ. Je dis cela, on l'a lu, afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, que vous soyez restés fondés, enracinés en lui, que personne que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, une vaine tromperie s'appuyant sur les rudiments du monde et non sur Christ. C'est de tout cela dont Paul est en train de parler. Alors évidemment, oui, c'était quelque chose qui était, qui peut être aussi dans une certaine forme, pour certains qui peut être séduisant, parce qu'elle conforte l'être humain, qui est religieux par nature, dans cette idée qu'il peut encore plaire à Dieu, qu'il peut se relier à Dieu, qu'il peut produire quelque chose, qu'il peut mériter, s'attirer la faveur de Dieu. Alors que le message de la grâce le dit. Tu n'as rien, tu ne peux rien, tu ne mérites rien, mais moi je t'ai tout offert et je t'accorde tout. À la repentance, c'est la foi. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, évidemment, ces doctrines étaient quand même séduisantes. L'apôtre Paul le dit, ça met en évidence, ça fait ressortir l'orgueil charnel. Et puis, c'est dangereux parce que forcément, ça éloigne de Christ. Alors, dans les deux cas de figure, que ce soit, et c'est ça que je voulais aussi, sur ce point, insister, même dans les milieux évangéliques, des sœurs au sujet du manger du pain. 16-17, chapitre 2, verset 16-17. Vous trouvez ça aussi dans le livre aux Romains, 14. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire. Pasteur, et quand on est chrétien, on a le droit de manger ça. Et pasteur, quand on est chrétien, on a le droit de manger. Jésus dit, mais pardon, mais êtes-vous sans intelligence? Ce que vous mangez, ce que vous buvez, vous savez où ça va? Je vais vous faire un dessin, c'est pas dans le lieu secret, vous savez à quoi Jésus fait allusion. Jésus dit, c'est parce qu'il rentre dans l'homme qui suit l'homme. Et Paul dit, mais que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Alors quand il parle d'une fête, d'un sabbat, d'une nouvelle lune, il est en train de viser les docteurs judaïsants, effectivement, qui voulaient ramener les disciples dans l'Ancien Testament. Mais quand il parle de que personne ne vous juge au sujet du manger, du boire, etc., ne prends pas. Pourquoi est-ce qu'on vous impose des préceptes? Pourquoi vous nous imposez des préceptes? Ne prends pas. Ne goûte pas. Ne touche pas. Ah, ça c'est interdit, un chrétien il mange pas ça, un chrétien il... Jésus a dit, c'est pas ce qui rentre dans l'homme, ce qui sort de son cœur, qui le souille. Ce qui rentre, tout ça c'était bon pour des choses à venir, c'était des rituels alimentaires, et la loi mosaïque, tout ça c'est fini, c'est terminé. Relisez ça, relisez Romains 14, si vous avez des livres. Et là encore une fois, c'est pareil, quand Paul le dit aux Romains. Nous mangeons, nous le faisons, oui, certes, évidemment, et nous le faisons pour la gloire de Dieu. Nous voulons que nos corps soient en bonne santé parce que nous servons le Seigneur avec nos corps. Donc, c'est une histoire d'équilibre. Ça va? C'est pour ça qu'il dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, une vaine tromperie, les traditions humaines, les rudiments du monde. Que personne ne vienne vous juger au sujet du manger et du boire. Tout ça, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, la substance, c'est Christ. Christ en vous, c'est ça, votre vie, c'est ça, votre gloire. Alors les apparences de piété, tout ça, ça n'a amené à rien du tout. Paul insiste donc essentiellement sur la divinité de Christ, puisque cette doctrine avait ramené Christ au rang de simple créature. Paul insiste énormément sur la divinité de Christ. Dieu préexistant et créateur de toutes choses. Ah, le texte dont je vous parlais, qui fait couler beaucoup de salive et qui a entraîné plusieurs dans l'erreur, il est le premier-né de toute la création. Le premier-né, déjà, il n'est pas dit de toutes les créations, mais de toute la création. Et là, ici, il n'est pas question de premier-né au sens d'une création, mais au sens de sa résurrection. Apocalypse. Chapitre 1er, verset 5, parce qu'on n'étudie jamais un texte en dehors de son contexte et on ne tire jamais une conclusion d'un texte sans s'être assuré de ce que disaient les autres textes. C'est comme ça qu'on étudie la Bible. Apocalypse 1, 5 dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Donc, premier-né au sens de sa résurrection, mais premier-né aussi au sens où, afin d'être en tout le premier, on premier-né au sens de sa résurrection, mais aussi au sens où tous ceux qui ont cru en lui le suivront dans sa résurrection. Premier-né aussi au sens de sa prééminence, de sa suprématie. Il faut comprendre que, autant dans la pensée, dans la culture juive que dans la culture grecque, le premier-né, quand on parle du premier-né, on ne parle pas seulement du premier enfant qui a été conçu par papa et maman. Vous avez eu 3, 4 enfants, il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. Et quand on parle du premier, on n'est pas en train de parler d'un numéro. Dans la pensée juive, aussi dans la pensée grecque de l'époque, souvent, le premier-né, c'est celui qui a la prééminence, c'est celui qui est destiné à, c'est celui qui a la supériorité. La prééminence, c'est celui qui a la supériorité. Oui, c'est bon, pardon, c'est ce que je vous dis. La suprématie en matière de position, en matière de rang, pardon, ce qui va désigner le rang le plus élevé. Donc, ici, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire que Jésus est une créature de Dieu. Il est en train de dire que Jésus est au-dessus de création, au-dessus de toute créature. Il a le rang le plus élevé. Le premier-né entre les morts, sa résurrection, à sa prééminence, sa suprématie, afin d'être le premier. Bien évidemment, Jésus n'est pas non plus le premier ressuscité, parce qu'il y a eu des résurrections avant lui. Jésus lui-même a ressuscité le fils de Naïm, il a ressuscité Lazare, il y a eu des résurrections du temps d'Élysée, etc., etc. Mais il est le premier né d'entre les morts, il n'est pas le premier ressuscité, mais il a la suprématie parce que toutes les résurrections ont été faites par sa puissance. Et c'est lui qui a été la puissance de la résurrection de ceux qui ont été ressuscités avant lui. Paul précise bien, afin d'être le premier. Paul insiste beaucoup donc sur la nature divine de Christ. Il est avant toute chose, il est ici. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose. Dieu le Fils, venu dans le monde, ça je vous l'ai cité, a dit au Père, tu m'as formé, tu m'as donné un corps, et j'ai dit avec ce corps, oh Dieu, me voici, pour accomplir ta volonté. L'épître de Jean, 1 Jean 4, 2, Jésus-Christ est venu en chair, il a été incarné. Apocalypse 1, 8, Jean 1, verset 18 aussi, beaucoup de références que je vous laisse ici pour démontrer la... des références clés pour démontrer la divinité de Jésus. Quand vous parlez à des gens qui, dans certaines religions, vont s'opposer à cette divinité de Jésus. Mais si on enlève la divinité de Jésus, on enlève tout. On enlève tout plus. Je termine avec ça. Il insiste beaucoup sur la divinité de Jésus. Paul insiste aussi, tout ça c'est Jésus est. Et puis ensuite, on verra aussi comment il insiste sur ce que Jésus a fait, la suffisance de son œuvre. Mais là, il insiste sur la suffisance de sa personne, la divinité de Jésus, le Christ, et la suffisance de sa personne. Christ est prééminent, Christ parfaitement Dieu, y compris sur terre, Christ expression la plus parfaite du Père, Christ soutien de toutes choses. Déjà dans le sens de sa prééminence, il est le chef de domination et de toute autorité. Christ, parfaitement Dieu, y compris, pardon, sur terre, afin que toute plénitude habite en lui. En lui, alors qu'il était incarné, habitait corporellement dans son corps toute la plénitude de la divinité. Il est aussi l'expression, là je vous laisse, hein, c'est extrêmement clair, il s'occupe simplement de bien considérer le verset. Christ est l'expression la plus parfaite du Père, il est l'image visible du Dieu invisible. Tous ces textes nous ramènent toujours à sa divinité et à sa suffisance. Très important aussi pour confirmer ce passage, Hébreux 1.3, il est le reflet de la gloire du Père, il est l'empreinte de sa personne. Ce n'est pas un reflet au sens d'un vague reflet de ce qu'on observe quand on se regarde dans l'eau. Le reflet, dans l'original, signifie littéralement « émettre de la lumière ». C'est-à-dire que de la même façon que les rayons du soleil traversent et viennent sur la terre, ce rayon de lumière, ce rayon divin qui est Jésus, le rayon lumière de Dieu est venu sur cette terre, c'est le reflet de sa gloire. Littéralement, il est le rayonnement de Dieu. Il est le rayonnement du Père et l'empreinte de sa personne, ça c'est très clair. Il y a 7 milliards, 8 milliards maintenant d'êtres humains sur cette terre. Il n'y en a pas deux qui ont une empreinte différente et similaire. On a tous des empreintes différentes. Même les jumeaux ont des empreintes différentes. Et en réalité, il est l'empreinte de sa personne, c'est une façon de dire que Jésus dit, vous m'avez vu, c'est sûr et certain, vous avez vu le Père. Aujourd'hui, plus que jamais, avec toutes les tentatives des différentes religions qui tentent de rabaisser Christ au même rang que d'autres figures, des figures religieuses bibliques ou autres de ce monde, je crois qu'il y a ici de toute façon un enjeu majeur sur lequel l'Église doit veiller et devra toujours veiller, puisqu'on sait que la divinité de Jésus a toujours été attaquée et qu'elle le sera, évidemment. Mais le Seigneur nous a vraiment laissé tout ce dont nous avons besoin dans beaucoup de passages, y compris dans celui-ci, y compris dans cette épître. Christ est Dieu de toute éternité. Christ est prééminent. Christ est supérieur, suffisant. Christ est l'expression parfaite de Dieu le Père. Christ est le soutien de toutes choses. Que son nom soit béni. On va prier le Seigneur. Merci beaucoup pour votre partie. Que ce soit bien plus que les textes, peut-être qu'ils connaissent même parfois par cœur, mais que ce soit réellement des vérités qui soient gravées, qui soient ancrées dans ton cœur, afin que aucun disciple, aucun bien-aimé n'ait jamais de doute quant à la personne du Christ. C'est d'une façon ou d'une autre, Christ est atteint, rabaissé dans un cœur. Lorsque nous lui enlevons ne serait-ce qu'un petit peu de ce qu'il est, lorsque nous tentons, à contrario, de rajouter un petit peu ce qu'il a fait, c'est là que nos cœurs, que nos vies commencent à s'étioler, à se fragiliser, à devenir de plus en plus vulnérables.